Bonjour à chacun.
Soyez les bienvenus en ce nouveau dimanche, ce dimanche 14 novembre 2021. Je vais juste partager mon écran. Voilà. Aujourd'hui, c'est le dimanche des églises persécutées, ou plutôt le dimanche de l'église persécutée. Ce qui fait qu'on va avoir un dimanche un petit peu différent que d'habitude, parce qu'on va tous se focaliser sur cette thématique. Alors on laisse le temps à ce que tout le monde s'installe. Apparemment, le réveil ce matin a été difficile. Je ne sais pas comment c'est pour ceux qui sont à la maison, mais ici, ça arrive tout gentiment, les gens finissent de s'installer. Alors, soyez les bienvenus pour ce dimanche particulier de l'Église persécutée. Et je vous propose pour commencer de prier pour remettre ce culte au Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu pour ta présence. Merci Père pour ton regard posé sur chacun de nous. Merci pour ton regard posé sur nos cœurs. Merci pour ton regard qui parcourt toute la terre. Merci parce que tu nous sondes, tu nous connais parfaitement. Tu sais de quoi nous sommes formés. Père, merci parce que ton regard est sur chacun, où que nous soyons en liberté, que nous soyons persécutés, que nous soyons cachés. Tu connais toutes choses. Et je te remets le culte d'aujourd'hui, qu'on puisse être unis dans ta présence pour nous souvenir de nos frères et sœurs qui vivent la persécution. Je te demande de nous donner ton cœur en Jésus-Christ, ton Fils qui a été brisé pour chacun d'entre nous, que notre cœur aussi puisse être brisé par ton brisement, que nous soyons brisés en toi, que nous soyons prêts à recevoir tes émotions, tes sentiments pour ton Église et pour ce monde. Je te demande de disposer nos cœurs. Jésus, que ton caractère soit en nous, que tes pensées soient en nous. Saint-Esprit, je te demande de nous aider à fixer nos pensées sur toi, que nous puissions nous oublier nous-mêmes et nous préoccuper de ce qui se passe pour ceux qui sont dans la souffrance. Dirige-nous, je te remets ce culte, Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi et interviens auprès de tous nos frères et sœurs qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'une délivrance, qui ont besoin d'une consolation, qui ont besoin d'être restaurés, qui ont besoin d'être fortifiés, qui ont besoin d'être encouragés. Que dans cette Église, aujourd'hui, nous puissions faire la différence dans la vie de nos frères et sœurs. Pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton règne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus lui-même annonce la réalité de la persécution dans les évangiles, déjà dans les évangiles. Et la persécution ou la souffrance, il ne la présente pas comme une option, mais comme une conséquence directe de notre foi et de notre identité chrétienne. Dans Jean 15, les versets 20 à 21. Jean 15, les versets 20 à 21. Voilà ce qu'il dit à ses disciples. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Nos frères et sœurs persécutés subissent les conséquences de leur engagement à la suite de Jésus. Et c'est pour ça qu'il y a un appel à l'Église universelle pour prier, pour se mobiliser pour eux, pour que leur situation ne soit jamais banalisée, pour qu'on n'oublie pas leur réalité face aux injustices qu'ils subissent. Nous ne voulons pas nous taire. Et c'est le titre qu'ils ont mis, toutes les organisations qui se sont mises ensemble avec Porte Ouverte en faveur de l'Église persécutée pour cette année 2021. Ne nous taisons pas. Ne nous taisons pas. Donnons de la voix en faveur de nos frères et sœurs persécutés. Dans Proverbe 31, les versets 8 et 9, il est dit « Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. » Et cette année, on va prier pour la Turquie, mais à part la Turquie, on met l'accent sur l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique, tous les pays d'Afrique qui sont juste sous le Sahara, et pour les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Mais au-delà des différents contextes provoquant la persécution, c'est le message même de l'Évangile qui suscite le rejet. L'Évangile est un objet de scandale pour les uns et folie pour les autres. Et ça, c'est le verset de 1 Corinthiens 18 à 25, vous pourrez aller le relire. C'est une folie pour les uns, c'est un sujet de scandale pour les autres. Et la conséquence du rejet de l'Évangile, c'est que quand une personne croit en Jésus, elle devient suspecte, elle devient un danger, elle doit être marginalisée, isolée, voire dans le pire des cas, elle doit être éliminée. Alors c'est pour ça que c'est important qu'on reste sur la brèche. Ici en Suisse, ça paraît tellement lointain ces réalités, mais pourtant c'est une réalité qui se passe à une très 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 grande échelle. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin hors de nos frontières. La pandémie de coronavirus, elle a mis en évidence, elle a exacerbé la discrimination, l'inégalité et la persécution systématique que subissent 309 millions de chrétiens dans les 50 premiers pays de l'index mondial de persécution, sachant qu'il y a bien plus que 50 pays qui vivent la persécution. C'est là une des principales tendances observées dans la dernière édition de cet index, résultat d'une enquête annuelle sur la persécution des chrétiens dans différents pays. Chaque année, vous pouvez trouver sur Porte Ouverte cet index de persécution. Cette pandémie, elle a mis en évidence et elle a exacerbé la vulnérabilité sociale, économique et ethnique de millions de chrétiens dans le monde entier. Elle semble agir comme un catalyseur pour l'expression d'attitudes oppressives souvent cachées. Et cette année, pour la première fois, tous les pays du top 50 affichent au moins une persécution très forte. Dans les 12 premiers pays, c'est une persécution extrême. Et pour la 20e fois consécutive, la Corée du Nord est le pire pays du monde pour les chrétiens. Alors ici, vous avez juste une petite liste des premiers pays qui vivent cette persécution extrême. Extrême pour les 12 premiers, très forte pour les suivants jusqu'au 50e. Et ensuite, c'est fort, etc. Et puis ça diminue. En Afrique, les milices islamistes, elles exploitent les restrictions dues au Covid. Dans toute l'Afrique subsaharienne, l'Église a été confrontée à une violence jusqu'à 30% supérieure à celle de l'année dernière. Les djihadistes et les milices profitent des carences des gouvernements faibles. Et au Nigeria, qui figure pour la première fois parmi les 10 premiers, plusieurs centaines de villages, pour la plupart chrétiens, ont été occupés ou attaqués par des éleveurs peuls armés. Et Boko Haram et son groupe dissident, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ont perpétré quelques 400 attaques dans le nord du Cameroun. Au Burkina Faso, connu jusqu'à maintenant pour son harmonie interreligieuse, 1 million de personnes ont été déplacées par la sécheresse et la violence. Les islamistes attaquent les églises. Le Mozambique et la République démocratique du Congo sont confrontés à la violence des branches de l'État islamiste. Et je vais vous passer une vidéo. Ouais.
Nous dormions depuis peu quand nous avons été réveillés au milieu de la nuit par des cris et des coups de feu tout autour de nous. Ils nous ont attaqués et ont tué nos enfants, nos femmes, nos hommes. Nos maisons et nos églises ont été brûlées.
J'avais 4 enfants. Mon mari et 2 de mes enfants ont été tués par les éleveurs Fulani quand ils ont attaqué notre communauté. J'ai réussi à fuir avec mes 2 autres enfants vers le camp de réfugiés de Amarisco. Ce fut une expérience épouvantable. J'ai non seulement perdu mon mari et 2 de mes enfants, mais mon magasin et ma maison aussi ont été brûlés. J'ai perdu mon mari quand les islamistes djihadistes Fulani ont attaqué notre village. Ils ont abattu nos jeunes gens comme des animaux. Nos échoppes ont été brûlées. Nos écoles ont été brûlées. Nos enfants sont à la maison. Ils ne peuvent plus aller à l'école par peur d'être assassinés pendant les cours. Nous ne parvenons plus à dormir durant la nuit.
Chaque fois que nous tentons de retourner chez nous, c'est un échec.
Je lutte pour pouvoir nourrir mes 4 enfants. Après l'attaque des éleveurs Fulani, ma famille et moi avons perdu tous nos moyens de subsistance. Tout l'argent qui se trouvait dans la maison a brûlé. Il m'a donc été très difficile de subvenir aux besoins de mes enfants et de moi-même.
C'est ce que je fais actuellement pour nourrir ma famille. Je vends des noix. Nous prions et espérons que nous pourrons trouver du soutien pour l'achat de matériel pour l'agriculture et la reconstruction.
Ce n'est pas facile. Nous avons désespérément besoin d'aide.
Dieu soit loué pour l'intervention d'ACP et Néhémie. Nous sommes très reconnaissants. C'est comme les Fulani avaient planifié d'éliminer tous les chrétiens de cette région. Nous sommes vraiment, vraiment tristes.
La cible des attaques est toujours l'Église de Dieu.
Merci à ACP et Néhémie qui sont venus pour nous aider avec leur aide d'urgence.
Ces éleveurs Fulani vont revenir pour tuer et brûler nos maisons. Que pouvons-nous faire? Comment continuer? C'est à peine si nous pouvons encore aller à l'église et mener des activités chrétiennes. Chaque jour, nos jeunes sont assassinés. La persécution nous frappe violemment, mais nous ne voulons pas abandonner notre foi. Nous avons urgemment besoin d'aide. S'il vous plaît, aidez-nous.
J'ai moi-même passé 7 ans et 9 mois dans cette prison.
ACP offre des chèvres comme aide à l'autosubsistance, pas seulement en Éthiopie, mais aussi ici, au Nigeria. Le meurtrier terrorisme islamique fait des chrétiens des réfugiés sans le sou. 100 familles de 4 villages se sont vues offrir une chèvre. Avec celle-ci, ils peuvent constituer un cheptel pour en tirer des revenus afin de ne plus dépendre de l'aide extérieure. J'avais plus de 20 chèvres et des poules. Et maintenant, je n'ai plus rien. Je n'ai pas non plus d'argent pour acheter de nouveaux animaux. Mais aujourd'hui, Dieu m'a béni au travers d'ACP Néhémie. Je suis si reconnaissant. Je suis plein de joie. Dans ce village, nous n'avions jamais imaginé que quelqu'un penserait à nous et nous aiderait. Je m'occuperai bien de la chèvre que j'ai reçue et mes enfants vont aussi m'aider. S'il vous plaît, aidez aussi d'autres villages.
J'apprécie votre cadeau. Je vous remercie très fort. Que Dieu vous bénisse.
Chine, il y a toujours plus de surveillance et de restrictions. Sur les quelques 570 millions de caméras de surveillance, des millions sont dotés d'un logiciel de reconnaissance faciale perfectionné, lié au système de crédit social. Selon des rapports provenant des provinces du Henan et du Jiangxi, de telles caméras sont installées dans tous les lieux de culte autorisés par l'État. En Inde, il y a la problématique du nationalisme hindou. Dans le contexte d'une vague de nationalisme, les chrétiens indiens sont soumis à une pression quotidienne. Le message « pour être indien, il faut être hindou » continue d'inciter des foules à attaquer aussi bien des chrétiens que des musulmans. L'Inde continue aussi à bloquer l'arrivée de fonds étrangers dans de nombreux hôpitaux, dans des écoles et organisations religieuses tenues par des chrétiens. Et au Soudan, il y avait des bonnes nouvelles. C'est que le Soudan a aboli la peine de mort pour apostasie. Donc pour les personnes qui abandonnaient l'islam, il y avait la peine de mort et elle a été abolie. Et sa nouvelle constitution garantit la liberté religieuse. Elle abolit la charia en tant que source première du droit et ne définit plus l'islam comme religion d'État. Mais, ça c'est quand le dossier porte ouverte pour aujourd'hui a été préparé. Le 27 octobre, il y a eu un coup d'État par les militaires soutenus par les islamistes et on craint un retour à la charia. Le Soudan était en passe de devenir un pays laïque et apparemment, il y a tout qui est en ballotage, mais ça se présente plutôt mal. Si vous avez vos livres, vos Bibles, vous pouvez ouvrir au livre de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 22. Évangile de Luc, chapitre 22, les versets 28 à 32. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous voyiez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras revenu, affermis mes frères. » Je vais peut-être juste demander à Héloïse de mettre l'écran noir. Comme ça, on n'est pas dispersés. Merci. La nuit qui précède son arrestation, Jésus fait le point avec ses disciples sur les trois ans et demi qu'il vient de passer avec eux. Jésus, il a souvent été mis à l'épreuve durant tout le cours de son ministère. Il a été incompris par sa famille, il a été abandonné par la foule qui avait d'abord été enthousiaste, qui l'a acclamé. Il a été souvent déçu par ses disciples. Les personnes, en fait, qui étaient les plus proches de lui. Il a été rejeté par les religieux, son propre peuple, sa propre culture. Il a été persécuté par les puissants et il a été tenté et tenté encore par Satan. Il a vécu la solitude. Et dans tout cela, ses disciples étaient impliqués. Ils ont souffert avec lui. Ils n'ont pas souffert autant que lui. Mais ils ont souffert avec lui, ils ont marché avec lui. Et quand il a eu faim, eux aussi ils ont eu faim, puis ils ont dû aller chercher de la nourriture. Quand il a eu soif, eux aussi ils ont eu soif. Quand il se faisait haranguer par la foule, ils étaient là. Ils se faisaient aussi haranguer. Et comme le dit le proverbe, tel maître, tel serviteur. Et c'est ce que Jésus dit dans ce passage. Il n'y a pas de serviteur au-dessus de son maître. C'est presque une loi de la nature que les disciples de Jésus soient confrontés aux mêmes défis, aux mêmes tentations que lui. Et c'est encore le cas aujourd'hui, et c'est encore le cas pour nous. Parce que Nous sommes des disciples. On avait vu un de ces derniers dimanches. Il y a l'étiquette chrétien, l'identité, mais il y a aussi le fait d'être disciple de Jésus, de suivre Jésus, de faire ce que Jésus nous demande. C'est autre chose. C'est d'être en marche et de répondre à son appel, de faire ce qu'il nous demande. Et quand on est disciple de Jésus, quand notre vie, elle reflète ses commandements, on marche à contre-courant dans la société. Et ça, souvent, ça nous crée des problèmes. Des jugements, des incompréhensions, des moqueries, où ça nous met dans des situations où on est super mal à l'aise, on ne sait pas trop comment se positionner, comment faire pour ne pas prendre des coups. Ça, c'est chez nous, c'est un moindre mal quelque part, mais ça nous met déjà au défi. Mais c'est encore pire dans les pays où la liberté de religion n'est pas garantie par l'État, et dans lesquels les contraintes familiales et sociales ne laissent aucune possibilité de choix personnel en matière de foi. Et Jésus, il fait observer à Pierre que tout cela n'a rien d'étonnant car, il dit, Satan a voulu vous cribler comme le blé. Et Satan, il fait toujours pareil. C'est comme il a fait avec Job. Il se présente devant Dieu pour demander l'autorisation de tester les disciples de Jésus, de tester les personnes qui suivent le Seigneur, pour les cribler. Le fait de cribler, quand on veut cribler du froment, cribler du blé, tu prends un crible, donc c'est une espèce de treillis dans un récipient, tu mets tout ça, puis tu secoues, pour que le bon grain, il sorte par les petits trous qui ont la bonne taille, mais il reste des cailloux. Et les cailloux, on les prend et on les jette, on les arrache. Et Satan, ce qu'il veut faire, c'est nous cribler comme le blé. C'est ce qui s'est passé avec Judas Iscariote. C'était un des 12 disciples de Jésus. Et Judas, il a été criblé comme le froment. Il a été arraché. Et voilà ce que Satan aimerait faire avec chacun d'entre nous. Ce qu'il aimerait, c'est qu'on soit assez criblé, qu'on trouve assez de choses qui ne vont pas pour qu'on soit arraché. Et c'est le danger pour nous. C'est le danger. Mais Jésus est toujours resté fidèle. Jésus, lui, Satan voulait aussi le cribler, bien sûr. Mais Jésus, il est resté fidèle à son Père céleste. Il est resté fidèle à sa mission, jusqu'au bout. Et avec lui, malgré toutes leurs faiblesses, ses disciples ont aussi été fidèles. Et ce n'était pas évident. Quand Jésus dit ça à Pierre, Satan veut vous cribler comme le froment. Il dit, j'ai prié pour toi. Mais il savait, il a aussi juste dit dans les versets suivants, il lui a dit, avant que le coq ne chante, demain matin, tu vas me renier 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est un moment vraiment critique quand Jésus dit ça. Mais Pierre, il s'est repenti. Et Jésus a guéri. Jésus a restauré ces 3 fois où Pierre a renié Jésus. Et Pierre est reparti. La fidélité des disciples de Jésus, elle a été possible parce que Jésus priait pour eux. Et c'est ce qu'on a vu aussi depuis que Jésus est monté à l'ascension, il est monté au ciel, il est toujours dans les lieux célestes, il est dans les lieux spirituels, c'est notre saint sacrificateur, il intercède et il prie pour nous. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui, chaque fois qu'on est dans une situation d'adversité, Jésus intercède pour nous fortifier. Parce que depuis le début, il sait à quel danger on est soumis. Jésus savait que la foi, elle peut s'éteindre comme une lampe à huile qui manque d'huile. Et c'est pour ça qu'il continue à prier, pour que notre foi ne s'épuise pas, qu'on reçoive toujours la bonne huile, la nourriture, qu'on soit toujours rempli du Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous aide, qui nous instruit. Le Seigneur n'est pas seul à assurer ce ressourcement. Il charge aussi les siens de fortifier les autres dans la foi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce dimanche de l'Église persécutée. Parce que dans ce texte qu'on vient de lire, au verset 32, il appelle Pierre à assumer ce ministère dès qu'il aura surmonté sa propre défaillance. Il lui dit, mais tu vas me renier, mais quand tu seras revenu, quand tu te seras repenti, quand ce sera bon, tu auras passé ce cap douloureux, difficile, affermi tes frères. que cela signifie pour nous aujourd'hui, c'est que nous sommes tous chargés de soutenir, de fortifier nos frères et sœurs dans la foi, de prier pour eux, de leur tendre la main lorsqu'ils sont dans le besoin, de nous mobiliser pour voir ce qu'on peut faire pour eux. La première chose que chacun peut faire, c'est de prier. Et après, on peut s'investir aussi autrement. On peut s'investir financièrement, on peut s'investir sur le terrain, on peut s'investir en écrivant des courriers pour encourager les chrétiens persécutés. Il y a plusieurs choses à faire. Donc personne n'est trop faible. Personne n'est trop faible dans sa foi. Personne n'est trop faible dans sa condition sociale ou quoi que ce soit pour pouvoir aider, pour pouvoir soutenir, pour pouvoir faire ce ministère d'affermir nos frères et sœurs. Et pourquoi tout ça? Eh bien parce que la fidélité des disciples aujourd'hui, comme hier, s'accompagne d'une grande récompense. Nous serons assis à la table de Jésus, assis avec Christ dans les lieux célestes. Ce sera une grande table. Ce sera une grande table et on va retrouver tous nos frères et sœurs qui sont persécutés, tous ceux pour qui on aura prié, tous ceux pour qui on se sera élevé dans l'intercession, dans les lieux célestes, une position d'autorité devant le mal pour les soutenir. Nous serons à table avec Jésus. Nous allons régner avec lui. Nous serons face à face avec lui. Nous allons voir son visage. Nous allons contempler sa beauté. Et nos œuvres seront récompensées. Alors on ne sait pas comment ce sera ces récompenses. Mais il y a quelque chose de beau qui nous attend. Et c'est ça qui nous fait tenir. Et c'est ça qui fait tenir tous les chrétiens persécutés. Ils savent que quoi qu'il arrive sur cette terre, il y a un avenir, et ça, rien ni personne ne peut nous l'enlever. Rien ni personne ne peut le leur enlever. C'est pourquoi restons confiants malgré les nouvelles effrayantes qui nous viennent du monde entier et qui se rapprochent. Ayant les yeux ouverts, ça se rapproche. Alors cette année encore, voilà pourquoi aujourd'hui, nous célébrons ce dimanche de l'Église persécutée. Nous nous levons, nous nous mettons sur la brèche pour nos frères et sœurs. Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la tribulation, persévérants dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints. Romains 12, versets 12 et 13. Amen. Voilà, merci. L'Afrique subsaharienne, elle comprend l'ensemble du continent africain, à l'exception des 5 pays à dominante arabe qui bordent la Méditerranée. Ça représente plus d'un million de personnes, plus de 2000 groupes ethniques et langues différentes. Il y a 234 millions de musulmans et 470 millions de chrétiens. Et leur nombre va à peu près doubler, le nombre de personnes va à peu près doubler d'ici 2050. Le nombre de chrétiens va doubler d'ici 2050, c'est la religion de la croissance démographique est la plus rapide au monde et dans la moyenne d'âge est en même temps la plus basse. La natalité est d'environ 4,7 enfants par femme. En 1900, la plupart des Africains pratiquaient des religions traditionnelles, tandis que les musulmans et les chrétiens étaient en minorité. Ils représentent ensemble moins d'un quart de la population. Et depuis, le nombre des musulmans entre le désert du Sahara et le Cap de Bonne-Espérance est passé à environ 11 millions en 1900 à 234 millions en 2010. Et le nombre des chrétiens a augmenté encore plus, passant d'environ 7 millions en 1900 à 470 millions en 2010. À noter que dans la Corne de l'Afrique, comme en Afrique du Nord, le christianisme est arrivé bien avant l'existence de l'islam. Pour petit rappel, le Coran, il a été écrit dans les années 600, donc 600 après Jésus. Depuis de nombreuses années, la persécution des chrétiens est en hausse dans les pays subsahariens. L'Église a subi une augmentation de 30% de la violence par rapport à l'année passée, notamment des meurtres de chrétiens, des attaques, des destructions d'églises, de bâtiments religieux. La violence islamiste fait de l'Afrique subsaharienne la religion du monde la plus meurtrière pour les chrétiens. entre le 1er octobre 2019 le 30 septembre 2020, Porte Ouverte a recensé dans le monde 4761 chrétiens tués pour leur foi, dont 91% en Afrique. C'est au Nigeria qu'ont eu lieu la plupart de ces meurtres, soit 3530 en une année. La période d'avril à août 2020, où le pays était confiné en raison de la pandémie, est celle qui a vu le plus grand nombre de chrétiens tués, plus de 2200. Des centaines d'attaques ont été perpétrées, la plupart à motivation religieuse. Boko Haram continue de développer la collaboration entre ses propres factions, les combattants peuls extrémistes et les bandes criminelles. Plus de 270 églises ont été attaquées et ou détruites en une année. Je ne sais pas si on s'imagine. Tout à coup, notre église, elle est détruite. Qu'est-ce qu'on fait? Certains d'entre nous, on est détruits avec l'église. Qu'est-ce qu'on fait? Là-bas, c'est leur quotidien. Au Sahel, les djihadistes exploitent la défaillance des gouvernements qui ne peuvent ou ne veulent pas protéger les chrétiens et les autres minorités. Par exemple, le Burkina Faso, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui était pacifique, a été secoué par des attaques meurtrières contre des églises en 2019 qui se sont poursuivies en 2020. En outre, plus de 85 attaques ont eu lieu dans des établissements d'enseignement au Mali, au Burkina et au Niger entre janvier et juillet 2020. Les pays les plus touchés par la violence djihadiste en Afrique subsaharienne sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigeria en Afrique occidentale, le Cameroun et la République démocratique du Congo en Afrique centrale et le Mozambique en Afrique orientale. Les meurtres incessants et la destruction des églises et des maisons des chrétiens poussent ces derniers à l'exil. Et vous le savez certainement, des centaines de femmes, de filles sont enlevées chaque année. Et d'autres sont traumatisées. Si celles qui ont été enlevées parviennent à s'échapper et à retourner dans leur village, il est souvent considéré comme une honte qu'elles aient été violées ou qu'elles reviennent enceintes ou avec un enfant né d'un viol. Il en va de même des personnes qui n'ont pas résisté à une conversion forcée. De nombreux villageois doivent s'enfuir lors des attaques, laisser leur maison derrière eux. Les agresseurs pillent leurs biens, détruisent leurs récoltes ou s'emparent de leurs champs. Et un retour n'est souvent pas possible. Aussi à cause de la crainte des rebelles.
On peut être un vrai chrétien qui marche avec Dieu. Mais quand il nous arrive des choses pareilles, on est déçu, on a peur, on perd confiance et espoir.
La violence se répand comme un feu à travers l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire les pays situés au sud du Sahara. Le but est de créer des califats dans cette région, des groupes islamistes comme Boko Haram et d'autres groupes islamiques extrêmes. Leurs victimes, surtout les chrétiens et les musulmans modérés.
Nous étions à la maison quand Boko Haram a attaqué. J'apprenais à lire à mes enfants. Un voisin a couru pour nous dire que des maisons étaient incendiées au prochain village. Nous avons regardé et vu les flammes au loin. J'ai attrapé deux ou trois objets, pris mes enfants par la main et nous avons couru.
J'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu des gens armés sauter par-dessus la clôture. Puis j'ai couru vers mon papa et je lui ai dit « Il y a des gens dans la maison. » Ils étaient tous armés. Et ils avaient tous des couteaux. Ils criaient et claquaient les portes. Ils commençaient à poser des questions à mon père. Ils disaient qu'ils tuaient même des musulmans et à plus forte raison nous, les chrétiens.
Il y a beaucoup d'attaques mortelles contre les chrétiens. Ils attaquent surtout des villages chrétiens, détruisent des églises et tuent des chrétiens. Boko Haram et l'État islamique ont perpétré quelques 400 attaques violentes au nord du Cameroun rien qu'en 2020. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens fuient ou sont déplacés.
C'est arrivé un dimanche en avril, juste après le culte. Les terroristes sont entrés dans l'église, ont fait sortir 7 chrétiens et les ont tués. Nous avons eu tellement peur. Nous étions confus et ne savions que faire.
Après leur crime, les terroristes sont simplement repartis. Nous avons enterré les morts et avons pris la fuite.
Les femmes sont frappées le plus durement. Elles doivent trouver un endroit pour vivre et de la nourriture pour elles-mêmes et leurs enfants. Car ce sont souvent les hommes qui sont tués dans les attaques. Leurs femmes restent devenues veuves.
Je vais toujours à mon champ pour le cultiver. C'est la récolte qui me nourrit. Avant, je faisais ce travail avec mon mari. Mais maintenant, personne ne m'aide. S'il vous plaît, priez que Dieu me garde en bonne santé et m'aide pour que je puisse encore travailler la terre pour me nourrir. J'ai prié et dit à Dieu, « Tu m'as créé, tu m'as donné un mari et des parents, et tu me les as pris. Regarde ma condition. Ils ont brûlé notre maison et notre nourriture. Toi seul peux pourvoir. Il me reste 5 enfants. Le pire est que ces gens méchants rôdent encore par ici. Le plus sûr serait de rester à la maison. Mais nous devons aller au champ. Nous avons très peur. À tout moment, ils peuvent nous attendre dans un guet-apens. Nous avons tout le temps peur.
Ces attaques, la fuite et la faim laissent des cicatrices profondes aux chrétiens. En conséquence, beaucoup souffrent de traumas graves et ont besoin d'un accompagnement approprié.
La douleur dans le cœur ne s'en va pas juste comme ça. Quelquefois, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Surtout quand l'argent manque pour acheter à manger ou payer les frais d'école. Dans ces moments, je ressens la douleur. Je suis dans la peine. Je pleure parfois. J'ai l'impression que Dieu refuse de voir et d'entendre, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Quand nous sommes devenus chrétiens, nous avons été bannis de la famille. Puis Jésus est devenu notre papa et maman. Et nous sommes restés chez le pasteur. Mais Dieu a permis qu'il soit assassiné. Où est Dieu? Nous ne connaissons que larmes et souffrances.
Dans la prière, tenez-vous aux côtés des chrétiens d'Afrique subsaharienne. Ils ont besoin d'être soutenus dans leur foi. Ils ont des cicatrices physiques et spirituelles profondes. Beaucoup d'entre eux doutent aussi de leur foi. Priez pour la protection, la consolation et la guérison.
Je vous propose qu'on prenne un temps pour prier, maintenant spécifiquement pour l'Afrique subsaharienne. Les personnes sur Zoom, vous n'allez pas forcément nous entendre. Mais priez depuis chez vous. Nous, on ne va pas vous entendre non plus, mais vous saurez quand je reprendrai la parole qu'on va plus loin dans le culte. Et je vous propose ici, dans la salle, que les prières montent depuis la salle. Vous avez des sujets de prière qui sont affichés, de prier par exemple pour les responsables chrétiens, ceux qui guident leur communauté, alors que eux sont aussi dans la détresse, eux, ils sont dans les mêmes conditions. Priez pour les proches des chrétiens assassinés. Il y a tellement de femmes qui se retrouvent sans mari et qui doivent nourrir leurs enfants. Il y a des enfants qui se retrouvent sans parents. Priez pour ceux qui subissent les attaques des groupes islamistes, qui puissent surmonter leurs souffrances. Priez pour la protection des filles, des femmes, des jeunes garçons qui sont enlevés. Priez pour ceux qui sont libérés, parce que c'est pas plus facile. Priez pour tous les chrétiens qui sont déplacés. Et priez aussi pour l'affermissement des chrétiens. Parfois, on idéalise les chrétiens persécutés. On sait qu'ils auront un poids éternel de gloire devant le Seigneur. Et puis qu'ils reçoivent de la force, etc. Mais en fait, quand vous voyez le témoignage de cette jeune, il y en a aussi qui se demandent, mais où est Dieu? Et c'est légitime de se poser cette question-là. Alors priez pour qu'ils soient affermis. Priez pour que des persécuteurs rencontrent Jésus. Il y en a toujours, ça arrive toujours. Que Dieu intervienne avec puissance, qu'il mette fin à cette rage islamiste. Et priez pour les autorités, les gouvernements, qu'ils fassent preuve de sagesse, de discernement. Alors je vous propose que des prières montent. Allez-y, donnez de la voix.
Père, merci pour cet instant maintenant. Merci pour la présence de ton esprit ici. Merci pour ton regard posé sur la terre. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a rien qui ne t'est caché. Tu sais toutes choses. Père, nous prions maintenant pour les responsables chrétiens. Les responsables chrétiens qui sont dans les lieux où leur vie est chassée, Seigneur, pourchassée. Nous prions pour que ta protection soit sur eux. Nous prions pour que ta main intervienne. Nous prions aussi, Seigneur, qu'ils tiennent fort, qu'ils soient remplis de ton Esprit Saint, qu'ils tiennent, Seigneur, qu'ils tiennent jusqu'au bout. Père, merci. Merci pour ta compassion pour leur famille. Merci pour ta compassion pour leur Église. Affermis leur cœur, affermis leur vie. Parce que on a besoin d'eux, Seigneur, et ils ont besoin de nous. Seigneur, merci. Merci pour toutes tes interventions, pour ces communautés. Merci pour leur famille. Seigneur, cache-les aux yeux de l'ennemi. Cache-les, Seigneur, cache-les et garde leur vie. Seigneur, que ta main intervienne. Seigneur, que tu changes les situations. Père, nous te demandons de confondre aussi l'ennemi, de confondre toute œuvre du diable dans ces lieux, qui parcourt le monde, là où le diable se lève, Dieu Tout-Puissant, je te demande de te lever aussi, que tes ennemis se dispersent, que tes ennemis se dispersent. Seigneur, nous prions pour les proches des chrétiens qui sont assassinés. Seigneur, je te demande de poser ta main, de donner ta consolation, mais aussi de donner le courage de continuer, de tenir, le courage de se lever, de tenir. Seigneur, merci. Merci parce que tu te tiens avec celui qui est faible, tu te tiens avec celui qui est persécuté, tu te tiens avec celui qui a besoin de toi. Seigneur, merci. Merci parce que même dans l'adversité, tu te révèles à un ami. Nous te demandons d'être amis de ceux qui sont persécutés, ceux qui sont leur vie qui sont enlevées. Seigneur, je te demande d'être leurs amis. Nous te demandons aussi ta manifestation dans ces temps difficiles pour eux. Il y a tellement de protection à demander, il y a tellement de libération à te demander. Seigneur, chaque chrétien persécuté compte sur ton intervention. Et nous unissons nos cœurs avec eux ce matin. Nous tournons nos cœurs vers toi, nous te supplions. Seigneur, merci parce qu'il y en a, qui le demandent à genoux. Il y en a qui le demandent, qui te supplient de tout leur cœur. Il y a tellement d'églises sur la terre qui s'unissent aujourd'hui. Père, entends leurs cris, entends nos prières et interviens pour nos frères et sœurs. Seigneur, c'est difficile de se mettre à leur place et jamais nous ne pourrons vraiment réaliser. Mais comme jamais, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin que tu interviennes. On a besoin de toi. Seigneur, interviens et arrête l'ennemi, interviens Dieu Tout-Puissant. Supplions le Seigneur d'intervenir, supplions le Seigneur d'intervenir, que sa main soit étendue, que sa protection s'étend, qu'il se montre aussi, qu'il se montre dans l'adversité. Demandons-le, supplions-le Seigneur, supplions-le comme Église de Dieu, supplions-le comme famille, comme des familles qui ont des membres qui sont persécutés, des membres qui sont coupés du corps, des membres qui sont des vies qui ne doivent pas encore partir, qui sont enlevés trop tôt de la terre. Ils ont encore des prières à faire monter, ils ont encore de l'évangile à amener, ils ont encore des choses à faire, mais à cause de l'ennemi. Supplions le Seigneur, supplions notre Dieu, supplions-le, ne cessons encore, allons-y encore et faites monter vraiment vos prières encore, supplier Dieu. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, que tu puisses intervenir. Interviens, ô Dieu Tout-Puissant, aie pitié de tes tes enfants, aie pitié de nos frères et sœurs, aie pitié de ceux qui sont en Afrique, aie pitié de ceux qui sont en Chine, en Corée. Seigneur, aie pitié de ceux qui sont en Iran et qui sont en Irak. Aie pitié, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te demandons d'intervenir ce matin, que nos cris montent jusqu'à ton trône, que nos cris montent jusqu'à ton saint trône. Seigneur, nous te supplions ce matin de sauver encore quelques-uns, de sauver encore, de protéger encore. Aie pitié de nous, aie pitié de nous.
On va continuer, mais que nos cœurs soient toujours dans l'intercession, que nos cœurs soient vigilants. On a parlé de l'Afrique, mais il y a bien plus que l'Afrique. Il y a tellement de pays qui subissent la persécution, mais il y a aussi le monde musulman, et en particulier les nouveaux chrétiens issus du monde musulman. Alors le monde musulman, c'est 57 pays qui sont réunis dans l'Organisation de la coopération islamiste. Et cette coopération, elle a été créée en 1969 pour promouvoir les intérêts de l'islam et de tous les musulmans dans le monde. Au niveau international, à l'ONU, au Conseil des droits de l'homme et dans d'autres institutions, l'OCI œuvre dans le monde entier pour protéger les intérêts vitaux des musulmans, les vraies valeurs de l'islam et éliminer catégoriquement toute discrimination à l'encontre des musulmans sous toutes ses formes. Les pays les plus actifs, qui ont des visées islamistes, sont ceux qui sont les plus puissants, comme l'Arabie Saoudite, les États arabes du Golfe, le Pakistan, l'Égypte, la Turquie et l'Iran. En faveur de l'islam, ils se livrent à un travail international massif de lobbying, de médiatisation principalement en Occident, grâce aux milliards de dollars du pétrole, et dans des pays d'Afrique et d'Asie, par le biais de projets économiques. Comme cette organisation ne s'engage par définition qu'en faveur de l'islam et des musulmans, les droits d'un demi-milliard de personnes non musulmanes dans leur pays sont complètement ignorés, voire niés. Cela se voit clairement dans la Déclaration des droits de l'homme en islam, adaptée au Caire en 1990, selon laquelle l'OCI remet en question la Déclaration universelle des droits de l'homme. En fait, elle la subordonne à la charia et à la loi islamique. Et ça restreint la liberté de religion, l'éducation des enfants, la liberté d'expression, notamment en empêchant toute critique de l'islam. Ça prive les convertis de l'islam à leur droit à l'existence. Bien que la déclaration du Caire ait été partiellement révisée, le problème fondamental demeure. Et jamais auparavant, les chrétiens autochtones du berceau du christianisme n'ont été autant décimés au cours des 20 dernières années. Beaucoup d'observateurs parlent même d'éradication. Rien qu'en Syrie, le nombre des chrétiens a diminué de 84%, en Irak de 87%, et dans la plupart des autres pays, des autres États du Moyen-Orient, d'au moins la moitié. On assiste à un exode massif sans précédent des chrétiens ethniques. Les chrétiens ethniques, ce n'est pas forcément des gens convertis. C'est comme chez nous, d'une manière générale, on dirait par exemple les protestants et les catholiques. Tu peux être protestant ou catholique, mais sans forcément vivre ta foi. Mais tu l'as hérité. En fait, c'est voilà, on est chrétien ethnique quelque part. Et dans tous ces chrétiens ethniques, il y a des gens qui se sont réellement convertis. Mais il y a surtout aussi des musulmans qui se sont convertis. Donc ça fait comme deux sortes, les chrétiens ethniques et les convertis de l'islam. Et l'exode massif, c'est surtout les chrétiens ethniques, mais ceux qui sont convertis de l'islam, ils restent. Ils restent sur place, mais du coup, ils sont persécutés. Rien qu'au cours des 5 dernières années, un plus grand nombre de musulmans sont venus à la foi en Jésus que durant les précédents 1400 ans d'islam réunis. Cela s'explique notamment par la montée mondiale de l'extrémisme et de la terreur islamiste dont souffrent aussi de nombreux musulmans qui se mettent à douter sérieusement de leur religion. De plus, jamais autant de chrétiens dans le monde ne se sont intéressés au monde musulman et ne se sont engagés en sa faveur que ces dernières années, que ce soit dans les missions, dans l'aide d'urgence aux réfugiés ou avant tout dans la prière. Mais il y a surtout l'intervention souveraine de Dieu qui a rencontré de nombreux musulmans au travers de rêves, de visions et les conduit à la foi en grand nombre grâce à la télévision satellite, évangélique et à l'internet chrétien. La plupart de leurs pays musulmans d'origine, mais beaucoup aussi sur le chemin de l'exil ou dans leur pays d'asile. C'est aussi un sujet de prière parce que en Inde, par exemple, en Inde, il y a beaucoup de sites internet où tout est masqué pour qu'on comprenne pas forcément que c'est des sites chrétiens pour pouvoir évangéliser les Indiens. Mais en fait, il y a des gens tellement intelligents dans le gouvernement indien et au niveau des ingénieurs d'informatique qu'ils ont réussi à repérer tous ces sites internet et qu'ils les ont fermés. Donc en Inde, c'est devenu vraiment extrêmement difficile, même par le biais d'internet, d'évangéliser. Mais ailleurs, pour l'instant, c'est un moyen qui fonctionne bien et en particulier dans les pays musulmans. Je mets une vidéo.
J'irai voir les autorités pour faire enlever ton nom de ma famille, parce que tu es chrétien. Il a dit, je ne peux te rencontrer que pour te tuer. Je t'aurai, où que tu sois. Je te le promets, je t'aurai et je te tuerai.
Un parmi des millions, isolé et seul. C'est ainsi que se sentent beaucoup de chrétiens partout dans le monde. Ces ex-musulmans ayant grandi dans un environnement à majorité musulmane, par exemple au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne ou en Asie centrale. Partout dans le monde islamique, des milliers de personnes tournent le dos à l'islam et deviennent chrétiens. Un réveil incomparable dans un monde où le fait de se détourner de l'islam est un crime qui mérite même la mort. Le risque en vaut la peine pour eux. Bien des musulmans ne sont plus satisfaits de leur religion. Ils commencent à chercher des réponses, surtout dans la foi chrétienne. Ils cherchent en ligne, avec des amis chrétiens ou dans la Bible. D'autres rencontrent Jésus directement dans des rêves ou des visions.
J'ai rêvé du Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu une lumière et j'ai entendu une voix qui me disait « Tu es sur le bon chemin ». Le chemin que tu avais emprunté n'était pas le bon, mais maintenant, tu es sur le bon chemin. Cette rencontre avec Jésus a tout changé, toute ma manière de penser.
La plupart d'entre eux doivent se retenir pour ne pas partager leur nouvelle foi en Jésus avec leur famille. La sécurité, le soutien et l'identité, c'est ce que perd un musulman en décidant de devenir chrétien. Car cette décision amène la honte sur la famille élargie et est impardonnable. C'est ainsi que des membres de famille proches deviennent des persécuteurs.
J'ai dit à mon père, en face, que j'étais chrétien. Il m'a répondu, alors prends tes affaires, je ne veux plus te voir dans ma maison. Ne reviens jamais ici, tu n'es plus mon fils, je ne te connais pas.
Never come back here because you are not my son.
My uncle threat.
J'ai reçu des menaces de mon oncle. Il m'annonçait que quiconque me trouverait pourrait me tuer.
Why we do not talk?
Je lui ai dit, parlons-en. Il a dit, je ne peux te rencontrer que pour te tuer. Je t'aurai, où que tu sois. Je te promets, je t'aurai et je te tuerai.
Il m'a dit des choses qui m'ont profondément blessé. Il m'a dit, une prostituée qui croit en Mahomet, je l'honore et je l'appelle sœur. Mais toi, bonne fille, vierge, belle personnalité, tout cela ne compte pas pour moi, parce que tu es chrétienne. Elle, je peux l'appeler sœur, mais toi, non.
Beaucoup de chrétiens d'origine musulmane vivent dans la peur d'être découverts. En général, ils ne peuvent fréquenter des églises officiellement reconnues parce que celles-ci n'ont pas le droit d'accueillir des chrétiens d'origine musulmane. Si des rencontres avec d'autres chrétiens sont possibles, ce n'est qu'en secret, dans des églises clandestines.
Moi, je suis sûre que même si je vivre seule, Dieu il n'allait pas me laisser. Dans la Bible aussi, ils nous disent qu'on doit être une communauté avec tous les chrétiens. Même s'il n'y avait pas de chrétiennes ici, ou des chrétiens, peut-être j'allais chercher des autres chrétiens.
Mais ces rencontres clandestines risquent d'être découvertes par les services secrets de leur pays.
On a sonné à la porte et quelqu'un est allé ouvrir. C'était la police secrète qui a fait irruption chez nous. Ils ont commencé par nous séparer violemment. Ils ont crié, nous ont insultés. Assis, tout le monde, assis, personne ne parle. Ils ont commencé à fouiller toute la maison. Ils ont pris tout ce qui avait un rapport avec le christianisme. Des livres, tout ce qui était en lien avec Jésus, la croix, tout.
Malgré le danger, la foi chrétienne se répand rapidement dans le monde islamique, uniquement parce que les chrétiens ont le courage de confesser le message de Jésus malgré tous les risques. Priez pour les chrétiens d'origine musulmane. Priez pour que Jésus rencontre encore beaucoup d'autres musulmans. Priez aussi pour les chrétiens, qu'ils trouvent d'autres chrétiens pour vivre la foi ensemble. Priez pour ceux qui sont isolés, qu'ils persévèrent dans leur foi et ne retournent pas à l'islam par peur.
Le 18 novembre 2020, un mouvement international de convertis de l'islam s'est risqué à se présenter au public à l'occasion d'une journée mondiale de prière. Communio Messianica. La communauté du Christ est le nom du mouvement des chrétiens convertis de l'islam qui veulent offrir à leurs semblables un foyer spirituel et une communauté dans le monde entier, un soutien aux frères et sœurs dans le besoin, mais surtout un accompagnement et une formation de disciples afin que les ex-musulmans puissent grandir et mûrir en tant que chrétiens et disciples de Jésus. Leur devise, inspirée de 1 Pierre 2, 9, 10, est celle-ci. Appelez des ténèbres à la merveilleuse lumière de Dieu pour changer les gens et les pays de l'islam par la puissance de l'évangile. Le mouvement compte déjà des convertis de plus de 79 pays et même de la Mecque en Arabie Saoudite. Au total, plus de 1,5 million de personnes. Mais le nombre réel de ceux qui ont quitté l'islam et suivent le Christ est beaucoup plus élevé. C'est devenu maintenant la plus grande église du Moyen-Orient. Et pourtant, elle est totalement dépourvue de droits. C'est une église sans bâtiment qui, dans la plupart des pays musulmans, doit se réunir en secret, par petits groupes, parfois dans des maisons, mais souvent en plein air. Une véritable église de martyrs où chacun risque la persécution et la mort s'il est découvert. Une église qui risque tout pour Jésus, même la vie. Merci de prier pour les convertis de l'islam et pour leur église. Oups, je vous propose qu'on prenne un temps maintenant pour prier pour le monde des chrétiens convertis de l'islam. Pour que l'intolérance, la persécution et la violence à l'encontre de ces personnes, des personnes d'autres religions prennent fin au Moyen-Orient et ailleurs. Pour que nos frères et sœurs chrétiens d'origine musulmane voient tous leurs droits reconnus et puissent vivre librement leur foi en Jésus-Christ. Pour la sécurité des chrétiens traditionnels et des convertis persécutés et pour la libération des prisonniers. Pour que les chrétiens des pays musulmans continuent d'avancer l'évangile avec audace et une vision pour leur pays et puissent y contribuer positivement en tant que porteurs d'espoir. Qu'on prenne un petit moment maintenant pour prier pour eux.
Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Prions pour les nouveaux chrétiens musulmans. Seigneur, prions ensemble directement. Père, merci, merci pour le choix de ces frères et sœurs, de s'être tenus pour toi, Seigneur, d'avoir choisi ton nom. Seigneur, maintenant, nous prions pour que ta main les affermisse, que ta main les garde. Seigneur, qu'ils ne reviennent pas en arrière. Seigneur, que leurs ailes augmentent. Seigneur, que leur foi soit solidifiée. Père, garde-les du mal, garde-les de toute œuvre de l'ennemi. Seigneur, merci. Merci parce que tu t'es révélé à eux. Merci Seigneur parce que tu t'es montré à chacun d'entre eux. Merci Seigneur pour le fait qu'ils se lèvent pour l'évangile. Merci Seigneur parce qu'ils sont des témoins jusqu'à donner leur vie. Merci Seigneur parce qu'ils savent aussi ce qui les attend. Mais malgré cela, ils se tiennent à cause de ton nom. Père, nous élevons le nom de Jésus-Christ sur l'Église du Moyen-Orient. Nous élevons le nom de Jésus-Christ sur toutes les persécutées, sur ceux qui subissent la violence. Seigneur, nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus sur eux comme protection, la puissance de ton sang, Seigneur. Nous prions pour nos frères et sœurs d'origine musulmane qui sont aussi autant persécutés, Seigneur, qui sont aussi dans la difficulté, qui cherchent aussi à se tenir ensemble encore. Père, nous prions pour qu'ils ne manquent pas de nourriture spirituelle. Nous prions pour que des frères et sœurs encore se tiennent avec eux. Merci pour tous ceux qui se sont levés pour les aider par la publication sur Internet, sur les temps de prière. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta main qui les garde. Seigneur, affermis aussi leur marche, affermis aussi leur cœur. Seigneur, donne-leur de l'amour, couvre-les de ton amour pour qu'ils puissent encore aimer aussi leurs persécuteurs. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Nous prions pour les chrétiens traditionnels, des convertis persécutés, pour la libération des prisonniers. Seigneur, il y a tellement de nos frères et sœurs qui subissent des choses, qui perdent leurs droits, qui perdent leur maison, qui perdent tellement de choses. Seigneur, nous te les amenons devant toi. Qu'ils ne soient pas seuls dans les prisons. Nous prions que là où les ténèbres vraiment les entourent, Seigneur, que tu viennes par ta consolation, que tu viennes par la puissance de ton amour, que tu viennes pour les garder, Seigneur. Dis à quelqu'un de pouvoir encourager, donne à quelqu'un de se tenir dans la prière pour nos frères et sœurs. Nous prions pour les chrétiens qui sont dans les pays musulmans, pour qu'ils puissent toujours encore annoncer l'évangile. Seigneur, merci pour leur audace. Merci pour les rencontres dans leur vision, dans leur sommeil. Seigneur, toi, tu es Dieu. Il n'y a rien, tout est possible à toi, Seigneur. Tu peux te montrer dans les sommeils, tu peux te montrer physiquement, tu peux te montrer que tu puisses, Seigneur, te révéler à chacun d'entre eux. Nous prions pour que la connaissance de ta parole augmente, que tu puisses donner la vie, que tu puisses donner la vie à travers ta parole. Nous prions pour que les ondes propagent la puissance de ton nom. Nous prions pour que les oreilles qui entendent soient convaincues de qui tu es. Nous prions pour la vérité, nous prions pour la puissance de ton nom. Nous prions pour que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne dans le Moyen-Orient, que ton règne vienne dans l'Église du Moyen-Orient, que ton règne soit installé dans les prisons, que ton règne soit dans les familles. Seigneur, que ton règne vienne, que la puissance de ton nom soit proclamée. Seigneur, nous prions pour que personne ne perde espoir. Nous prions pour que personne ne perde espoir, fortifie leur cœur, fortifie leur vie, fortifie leur marche. Seigneur, qu'ils n'abandonnent pas. Seigneur, comme chacun d'entre nous, comme nous aussi, fortifie nos cœurs, fortifie nos vies pour que nous n'abandonnons pas. Seigneur, merci. Merci pour toutes tes interventions. Merci de t'être révélé à cette église. Merci pour ta main puissante qui les garde. Seigneur, nous te les confions. Nous te les confions. Amen.
Amen. Je vous propose encore juste de prier. Seigneur, je te remercie pour ce culte. Merci pour tout ce que tu nous as fait vivre aujourd'hui. Merci pour la sensibilisation à ce que vivent nos frères et sœurs au loin. Je te demande que nos cœurs, Seigneur, soient éveillés, que nos lampes soient allumées, que nos lampes ne s'éteignent pas et que nous soyons vigilants, que nous soyons debout dans la prière, sur la brèche, pour nos frères et sœurs, où qu'ils se trouvent. Seigneur, merci de nous aider à ne pas être égocentriques, de ne pas avoir nos regards fixés sur notre nombril, mais qu'on puisse voir au loin, qu'on puisse voir à l'extérieur, qu'on se préoccupe des autres et pas seulement de nous-mêmes. Je te demande, Seigneur, que tes fardeaux soient déposés sur nos cœurs à chacun d'entre nous. Et je te remets chacun. Merci de bénir tous mes frères et sœurs pour cette semaine qui vient. Merci de les garder sous ta protection. Garde-les sous la souveraineté de ton nom, Jésus, ton nom, le plus grand nom, le plus beau nom, le plus haut nom. Que ta bénédiction soit sur chacun d'eux, sur chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche. Soyez bénis.